avec toutes ces considérations, on en est aujourd'hui à proposer des formations, comme à Lyon 2, en intercompréhension langue romane, qui consiste à apprendre simultanément toutes les langues romanes, mais à les comprendre seulement. Je m'aperçois en passant que je n'ai pas donné une véritable définition d'intercompréhension, qui est la suivante. L'intercompréhension, c'est une pratique qui consiste à continuer à parler sa langue avec quelqu'un qui a une autre langue et qui fait la même chose. Autrement dit, c'est une pratique entre plusieurs personnes de langues différentes qui continuent à parler leur langue pour dialoguer. On peut retourner cette définition de toutes les façons possibles, on arrivera toujours à la situation. Langue différente, chacun parle la sienne. Alors ça, c'est la base de la définition. On s'apercevra que parfois la définition est beaucoup plus complexe, mais on n'est pas là pour couper trop les cheveux en quatre, mais surtout pour affirmer cette grande innovation chez nous que serait le fait d'étudier plusieurs langues en même temps sans les parler, sans apprendre à les parler. Donc on a une formation ici qui s'appelle Intercompréhension en langue romane et qui le propose. Elle propose aussi de le faire en relation avec d'autres personnes qui font la même chose et qui sont à distance. C'est pourquoi je vous présenterai tout à l'heure la plateforme Galanet. Mais on n'a pas inventé ça un jour, un petit matin où on s'ennuyait, on a dit tiens, on va faire ça. Non, c'est un cheminement comme un peu toujours les choses qui existent nouvelles dans le monde. J'en fais quand même une affaire considérable. Je le présente comme si c'était aussi important que l'invention d'Internet. Oui. J'exagère peut-être, mais en tout cas, ça aura peut-être le mérite de vous frapper. Depuis longtemps, des gens ont commencé à aller dans cette direction d'une manière hésitante. Et au fil des années, je dirais même des siècles, on est arrivé à des évidences. Évidemment, ce n'est pas des évidences pour tout le monde, si je puis dire. Mais pour moi, c'en est une et je ne suis pas le seul. Bref, avant ça, il y a des gens qui avaient commencé à réfléchir. Je vais citer en premier les Scandinaves, mais historiquement, c'était les Allemands quand même. Alors, les Scandinaves ont trois langues, le suédois, le danois et le norvégien, qui se ressemblent. Si les uns comme les autres, ils se mettaient à apprendre à parler la langue des autres, ça serait un luxe disproportionné, parce que quand ils parlent la leur, les autres les comprennent. Ils les comprennent à peu près. Mais pour qu'ils les comprennent mieux, les écoles de ces pays, depuis plus d'un siècle, ont présenté les deux autres langues, tranquillement et longuement, c'est-à-dire sur la durée. Ce qui fait que un Danois, un Suédois, un Norvégien peut continuer à écrire et à parler dans sa langue quand les autres sont là avec lui, les deux autres. Ces trois pays constituent un sous-ensemble des langues germaniques. On les appelle les langues scandinaves. On aurait pu faire la même chose avec les langues romanes depuis aussi longtemps, même plus longtemps. On aurait pu, entre l'italien, l'espagnol et le portugais notamment, qui sont à peu près dans la même proximité que les langues scandinaves, c'est-à-dire une très grande proximité entre l'espagnol et le portugais, et un peu moins avec l'italien, ce qui fait que ça ressemble à très grande proximité entre suédois et norvégien, et un peu moins avec le danois, pour ceux qui connaissent les langues scandinaves ou qui sont scandinaves. Est-ce qu'il y a des scandinaves parmi nous? Bon, c'est dommage, parce que j'aurais pu témoigner de cette faculté. Mais bon, de toute façon, il y a parmi nous des hispanophones, des lusophones et des italophones et qui ont déjà expérimenté cette proximité. Alors, pourquoi je n'ai pas cité le français d'emblée? Parce qu'il est un peu moins proche. Pourquoi je n'ai pas cité le roumain? Parce qu'il est un peu moins proche. Par contre, je pouvais citer le catalan. Le catalan, on pouvait mettre même quatre langues dans le groupe des très proches, des langues romanes très proches. Donc, les précurseurs en ce domaine, ce sont les Scandinaves qui, d'une certaine manière, montrent l'exemple, mais pas d'une manière révolutionnaire pédagogiquement. Ils font ça en embêtant les élèves, en leur montrant des conjugaisons, des trucs rébarbatifs. Mais ça marche. Et alors, qu'est-ce que c'est cette idée de la tradition universitaire allemande? Eh bien, la tradition universitaire allemande a créé, c'est devenu traditionnel entre-temps, des études de comparaison de langues romanes, qu'on a appelées par la suite la romanistique. La romanistique, c'est la science, c'est de la linguistique, c'est la science de la comparaison des langues romanes. Ça a été créé au cours du XIXe siècle et un certain Friedrich Dietz qui s'est illustré en publiant des grammaires et des dictionnaires de langues romanes, c'est-à-dire en considérant toutes les langues ensemble, et d'autres lui ont succédé, et Leipzig est devenue la première université de romanistique dans le monde, et ça continue aujourd'hui encore. Dietz, D-I-E-Z. Alors vous le trouverez dans les notes, hein. Il suffira de... Quand vous allez là, vous lisez les notes, quand vous êtes là-dessus, vous êtes en ligne, hein. Il n'y a rien à télécharger. Si vous les téléchargez, je vous réexpliquerai tout à l'heure, parce qu'il y en a qui sont arrivés entre-temps. Alors, peu importe ces noms, c'est des choses pour rendre hommage à ces gens qui ont quand même eu une grande idée. On n'est pas obligé de retenir tout ça, c'est juste pour... Bon, ils méritent, quoi. c'est vrai. Ils méritent de nous. Bien. Alors, évidemment, c'était très austère et très scientifique et tout ça. Et ils ont continué assez longtemps. Mais on peut se demander pourquoi les romanophones, eux, n'ont pas fait la même chose. Alors là, c'est justement là où on a une première notion de compréhension qui surgit. Parce qu'eux, ils avaient entre eux le culte des différences. Ils cultivaient les différences. Par exemple, les faux amis dont je reparlerai. Ah, mais attention, l'espagnol, c'est pas du portugais. Et les portugais disaient, attention, le portugais, c'est pas de l'espagnol. Et toujours comme ça. Mais chez moi, on dit comme ça. Et là, bon, bref, ils cultivaient les différences. Alors que les Allemands, eux, ont été séduits par toutes ces ressemblances et surtout par le fait qu'on connaissait tout des langues romanes depuis l'époque latine. On connaissait tout du latin sur 10 siècles. Et on a vu se transformer le latin. On peut voir se transformer le latin parce qu'on sait que tel mot latin est devenu comme ci, comme ça, toc, 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 et dans telle région et tout ça, et pourquoi et comment. Aujourd'hui, si vous voulez, on peut encore faire des recherches là-dessus, bien entendu, mais on sait pratiquement tout. On a toutes les données qu'on voudrait avoir sur les langues latines, leur évolution, leur parenté, leur origine, leur mélange et leurs influences dans l'histoire depuis 8 siècles avant Jésus-Christ. Donc bon, ces chercheurs se sont mis à chercher sur cette question et sont arrivés à faire des travaux de comparaison utiles qu'on peut utiliser aujourd'hui et qui nous permettent, qui sont parfois des choses très simples mais qu'il était nécessaire de faire. Bon, on va sauter un petit siècle et on arrive dans les années 80-90. On peut même partir de 1975 où une chercheuse de Grenoble, c'est pas loin, qui s'appelle Louise Daben, a eu une intuition toute bête mais toute géniale qu'on ne pouvait pas enseigner l'espagnol, puisqu'elle était espagnole, sans recourir aux connaissances en français des élèves. Bon, c'est tout bête, mais... Elle avait quand même remarqué qu'on interdisait pratiquement d'une tradition de faire des ponts. On continuait avec le culte de la différence. Et par exemple, en espagnol, on préférait dire empezar que comenzar. Parce que comenzar, ça ressemble trop au français, donc ça ne peut pas être vraiment de l'espagnol. Donc on leur disait non, empezar, c'est mieux. Et donc d'autres choses comme ça, surtout tous les faux amis que tout le monde connaît, tellement on nous a bourré le crâne avec constipation et des choses comme ça. Donc, on a ces faux amis prenaient beaucoup de place, les mises en garde contre les ressemblances prenaient plus de place que l'exploitation des ressemblances. Donc, il y a un article qui est disponible, qui est de 1975 et qui permet de comprendre comment a démarré la réflexion de Louise Daben, et autour d'elle, des chercheurs ont commencé à vouloir concevoir du matériel d'auto-apprentissage pour les langues romanes. Et il en a résulté les CD Galatea, qui sont des CD-ROM, une technologie qui aujourd'hui, évidemment, est un peu dépassée. C'est pas dans l'ordre par rapport à ma liste, mais je vais y revenir. Le CD Galatea qui permettait en une vingtaine d'heures à un étudiant d'une langue romane de se rendre capable d'en lire une autre, c'est-à-dire capable de lire par exemple la presse dans une autre langue. Alors est-ce que vous entrevoyez déjà le formidable gain de temps que ça aurait été si ces choses s'étaient généralisées? Et en plus, bon, là, c'était quand même bousculer un peu l'institution. Ça veut dire, on donne un CD-ROM à un étudiant studieux, évidemment, il faut être un peu travailleur, un peu volontaire. On le revoit 20 heures de travail plus tard, il sait lire une langue. Et il ne sait pas la parler, d'accord, il ne sait pas écrire, mais il sait la lire. Il ne la comprend pas à l'oreille non plus. Un petit peu, c'est tout, parce qu'il y avait quand même des fichiers sons. Est-ce que vous voyez la grande différence qu'il y a déjà avec un enseignement traditionnel où on n'est pas capable de faire quoi que ce soit pendant plusieurs années? Il acquérait rapidement une compétence parce qu'il n'avait cherché à acquérir qu'une seule compétence. Si on hiérarchise les compétences, si on les sépare, on peut arriver à un résultat. Le cadre européen de référence en langue propose aujourd'hui de séparer les compétences. Propose de ne travailler qu'une compétence pendant un certain temps. Donc, mais jusqu'à présent, ce n'est pas ce que proposait le reste. Alors donc, il y a eu cette réalisation de CD, 7 CD, 7 cas. Il aurait pu y en avoir plus, mais ça n'est pas, ils ne sont pas arrivés jusqu'au bout de leur défi. Et donc, on était là en année 2000, lorsque les CD ont été réalisés, c'était pendant l'année 2000. J'aurais dû commencer par Rome 4 parce que c'est en 97 que Rome 4 a publié une méthode d'apprentissage simultané des langues romanes concernant 4 langues romanes et supposant que l'étudiant, parce que c'était pour le supérieur, était déjà d'une de ces langues. C'est-à-dire un Français allait pouvoir étudier simultanément l'italien, l'espagnol et le portugais avec cette méthode qu'on appelle EROME 4. C'est une méthode, c'est un livre qui est utilisé en classe et qui se fonde sur la traduction de texte. Traduire, c'est comprendre, d'une certaine manière. Et pour arriver à la traduction, il s'appuie sur la comparaison des langues romanes. Donc j'en dis pas plus sur EROME 4, j'y reviendrai un peu. Eurocomrom, c'est les Allemands. Alors les Allemands ont inventé une méthode de lecture des langues romanes qui s'appelle les 7 tamis. Les 7 tamis, ça veut dire 7 étapes successives dans lesquelles on filtre les informations qu'on a dans le texte et à la dernière étape, on a compris. La première information qu'on a dans presque tous les textes du monde et de toutes les langues, c'est les mots internationaux. Si je vous passais un son que j'ai enregistré la semaine dernière dans une langue qui s'appelle le Shangana, vous verriez qu'il y a des mots qui ressortent et que vous comprenez. Pourtant, le Shangana, c'est une langue bantoue, ça n'a vraiment rien à voir. Les mots qui ressortent, c'est des mots internationaux. Donc ce premier filtre, on peut l'appliquer pratiquement à toutes les langues du monde, a fortiori aux langues romane. Puis, il y a le vocabulaire qui ressemble, le vocabulaire roman. Et puis, il y a la grammaire qui ressemble. Et il y a comme ça 7 niveaux dans le détail desquels je ne vais pas entrer puisque ces textes sont disponibles et vous pourrez vous-même les lire si ça vous intéresse. Ensuite, j'ai mis comprendre les langues romanes puisque ça, historiquement, c'était dans les premiers. Et cette méthode, déjà, elle s'appelait méthode le livre s'appelle méthode d'intercompréhension et le projet s'appelait intercommunication romane. Donc il y a un cheminement qui a été fait depuis l'origine du projet jusqu'à sa réalisation. Il a débouché sur un livre qui compare 5 langues romanes et qui peut servir de support pour un cours traditionnel. Et enfin, Itinéraire Roman, c'est un site de l'Union Latine. L'Union Latine, c'est une organisation intergouvernementale qui vit de subventions de 37 pays romanophones et qui donc utilisent cet argent pour promouvoir les langues romanes ou les cultures des pays de langue romane et organiser entre eux des activités. L'Union Latine. Donc l'Union Latine a fait un site itinéraire roman pour la jeunesse qui est destiné à apporter des connaissances dans les 6 langues romanes principales qui sont, je les cite, il y en a d'autres puisqu'il y a des langues régionales qui sont romanes, mais le catalan, l'espagnol, l'italien, le portugais, le français, le roumain. Donc ces 6 langues-là, il y a des contes traditionnels de régions du monde, y compris des régions du monde qui ne sont pas des contes qui proviennent d'une autre langue, par exemple le Sénégal, et ces contes sont traduits et non pas didactisés, parce qu'il faut encore que le prof fasse un travail d'appropriation pour sa classe, mais déjà rendu interactif par un grand nombre de questions ludiques, puisqu'il s'adresse à des publics qui peuvent être très jeunes jusqu'à des adolescents et plus. Même moi, ça m'amuse, c'est pour vous dire. Alors, donc, itinéraire roman, qui est aussi donc une tentative d'apprentissage simultané des langues romanes. Ça veut dire que la définition que j'ai donnée tout à l'heure de l'intercompréhension, en didactique, elle est plus large. On considérera qu'on fait de l'intercompréhension même quand on prépare à l'intercompréhension. C'est-à-dire des gens qui se donnent la peine d'apprendre dans une classe sans communiquer, sans pratiquer l'intercompréhension, c'est-à-dire ce dialogue avec plusieurs langues, avec des gens qui ne parlent pas la même langue. S'ils s'en rendent capables, on va considérer qu'ils font de l'intercompréhension. De toute façon, ce n'est pas nouveau, parce que je ne vais pas non plus matraquer l'anglais, mais ceux qui apprennent l'anglais ou qui apprenaient l'anglais dans ma génération, ils ne pratiquaient pas le dialogue avec des anglophones. Et même certains ont fait de l'anglais pendant plus de 10 ans et ne l'ont jamais pratiqué de leur vie. Donc ce n'est pas... Et pourtant, on dit qu'ils apprenaient l'anglais. Donc là, on peut très bien dire on apprend l'intercompréhension en langue romane, donc on fait de l'intercompréhension. Mais l'intercompréhension, ne perdez pas de vue que c'est une pratique. Ce n'est pas une méthode.